Les podcasts de l'Institut de France. L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Il serait difficile aujourd'hui d'imaginer la France sans ses monuments, Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel, Giverny ou encore l'Arc de Triomphe. Chaque année, des millions de visiteurs viennent les admirer et cette richesse contribue à faire de la France la première destination touristique mondiale. Mais derrière cette vitrine se cache une réalité préoccupante. Ce patrimoine est de plus en plus fragilisé. Les menaces sont nombreuses, alors il y a l'usure du temps, la pression touristique, mais aussi des causes plus inattendues auxquelles vous ne penseriez pas forcément. Pour en parler, nous recevons Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture et autrice d'un tract Gallimard, Alerte sur le patrimoine. C'est un essai qui dresse un état des lieux très éclairant sur la question. Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver au micro de l'envie de savoir. Vous étiez venue l'année dernière pour une émission sur Notre-Dame, donc on y parlait déjà de patrimoine. Mais aujourd'hui, on va prendre un petit peu plus de hauteur sur le sujet. Et je voulais commencer par nous arrêter sur ce terme de patrimoine, parce qu'il englobe énormément de choses. Il peut désigner autant une église qu'un savoir-faire immatériel. Vous qui avez travaillé au ministère de la Culture, du point de vue du ministère de la Culture, qu'est-ce qui définit un patrimoine ?
Ah, il y a la définition d'André Chastel, qui est un des grands hommes du patrimoine, un spécialiste de l'architecture italienne, qui a écrit un livre sur la définition du patrimoine, et qui dit, au fait, en gros, je résume, c'est ce qui nous est transmis et qui nécessite et qui mérite des sacrifices pour être transmis. Ce que nous avons hérité de nos pères, un patrimoine, c'est le même sens que financier, mais ce qui mérite d'être transmis au prix d'un sacrifice. Voilà. Pas oublier cet élément essentiel de la définition de Chastel pour transmettre le patrimoine. L'emploi du patrimoine dans un sens culturel est assez récent, en fait. Il est entré officiellement dans les textes par la création, par Jean-Philippe Leca, ministre de la Culture et des Communications avant Jacques Lang, juste avant Jacques Lang, hein. Et il a créé la direction du patrimoine. Et l'année 1980, il lance l'année du patrimoine, qui a été une année de célébration du patrimoine, et dont le succès a fait le succès du mot, à vrai dire. Personne, jusqu'en 80, ne sait qu'il y a une direction du patrimoine. Mais à partir de 1980, le mot patrimoine n'est plus utilisé du tout. Enfin, il est utilisé toujours en termes financiers de notaire, si vous voulez. Mais quand on dit le patrimoine en France, maintenant, on sait que c'est de la culture.
Bien sûr, avec le succès des journées européennes du patrimoine qui ont lieu tous les ans au mois de septembre, le 3e.
Alors, elles ont commencé par être françaises, hein, voilà.
Les journées du patrimoine françaises.
Oui, elles ont commencé par être françaises. Et ça s'appelait Portes ouvertes dans les monuments historiques. Et puis, vous voyez, c'est très caractéristique de la dilatation toujours qui caractérise le patrimoine, c'est que les journées portes ouvertes dans les monuments historiques, vous passez aux journées du patrimoine, donc c'est tout. Voilà, le patrimoine, c'est tout. Voilà.
Alors, en France, en volume, la France est un pays très riche en biens patrimoniaux. Oui. Comparé au reste de l'Europe, est-ce que c'est le plus riche patrimonialement parlant de l'Europe ?
Avec l'Italie.
Avec l'Italie.
Hein, ce sont les deux grands réservoirs, d'ailleurs, de vols d'œuvres d'art aussi, d'exportations.
Hein. Ça, on en reparlera, oui.
L'Italie et la France sont les deux grands pays de patrimoine, alors, au sens classique du terme, c'est-à-dire monuments et musées, hein, et œuvres d'art dans les musées. L'histoire du patrimoine, l'histoire du musée, en fait, n'est pas du tout la même histoire. Hein. Ça a l'air d'être la même chose, mais en fait, non, l'histoire du musée est beaucoup plus ancienne. Le patrimoine est une notion moderne. J'aime bien rappeler ça parce qu'on associe le patrimoine à l'archaïsme. En fait, c'est une invention des Lumières, le patrimoine. L'idée qu'il ne faut pas laisser détruire les témoins du passé est tout à fait moderne. Mmh. Elle n'émerge qu'à partir du XVIIIe siècle.
On a des penseurs précis qui, à l'époque des Lumières, pensent le patrimoine ?
Oui, et puis les premières protections datent de les premières campagnes pour éviter les destructions. Mmh. Mais en fait, ça coïncide, à mon avis, hein, mais c'est une intuition que j'ai, ça coïncide avec le début de la révolution industrielle. Ça commence en Angleterre, pareil. C'est en réalité la modification des paysages par la révolution industrielle qui éveille le sentiment du patrimoine, qui est très, évidemment, la nostalgie de ce qui va disparaître.
Hein, un besoin de sauvegarde.
Et un besoin de sauvegarde, de ne pas oublier l'histoire de la France. Mais juridiquement, les politiques du patrimoine en France naissent sous Guizot, hein, enfin, sous la monarchie de Juillet, la création de la commission des monuments historiques avec Ludovic Vitet, puis surtout Mérimée, hein, qui est le premier inspecteur des monuments historiques. Ça, c'est une création de Guizot. Mais ce qui est intéressant, c'est que Guizot a fait ça dans un but politique. Il a écrit beaucoup sur le rapport entre les civilisations et les bâtiments, l'incarnation d'une civilisation et d'une pensée dans des monuments. Donc, Guizot fait ça, en fait, dans un but politique, c'est qu'il pense que la fracture introduite par la Révolution entre l'Ancien Régime et la France d'après la Révolution, qui est une fracture qui est très violente, qui partage la société, on peut réconcilier ces deux France. Mais donc, on peut les réconcilier autour des gloires de la France, à condition qu'elles soient suffisamment éloignées dans le temps. Tout ce qui est récent, c'est susceptible de dissension. Mais si vous vous reportez aux époques glorieuses, alors là, tout le monde va se réunir. Et pour le 19e, la grande époque glorieuse, c'est le 13e siècle. Le beau XIIIe siècle, le beau Moyen-Âge. La naissance de l'art gothique dans le nord de la France, en Île-de-France. Voilà. Ce qu'on a appelé aussi la Renaissance française.
Donc les premières politiques de conservation, de sauvegarde du patrimoine sont consacrées à ce siècle-là.
C'est 1830, hein, la création du service des monuments historiques par Guizot et la théorisation. Et la première liste de protection des monuments, c'est 1840, qu'on appelle dans les services la liste de Mérimée. Et c'était très intéressant, parce que c'était les monuments qui représentaient bien l'ancienne France et qui méritaient, vu leur état et leur intérêt, un soutien de l'État. Donc vous voyez, c'est cette idée que développe Chastel, hein, que ce sont des vestiges assez importants pour notre histoire et l'histoire de notre art. Hein, c'est un intérêt d'histoire et d'art, c'est ça la définition, suffisamment important pour mériter un soutien de l'État, donc un sacrifice financier.
Là, vous avez beaucoup parlé de Guizot, qui a été le premier à mettre en place des politiques de patrimoine. Guizot était à ce moment-là ministre ?
Il était principal ministre de Louis-Philippe, mais c'est surtout un historien, hein, des ministres de l'éducation, en fait.
Aujourd'hui, là, on va faire un saut dans le temps et remonter à aujourd'hui. La notion de patrimoine a fait son chemin. Aujourd'hui, elle rencontre beaucoup de succès et les Français plébiscitent aussi leur patrimoine puisque les monuments, les musées constituent sur l'année la sortie culturelle la plus fréquentée devant le cinéma. Ça, c'est un chiffre que vous nous apprenez dans ce tract, notamment.
Mal connu, oui. Et puis surtout, elle est beaucoup mieux répandue sur le territoire, beaucoup plus distribuée dans les différents âges de la population. C'est une sortie qu'on fait souvent en famille, donc qui mélange les générations. C'est aussi la sortie qu'on privilégie quand on reçoit des amis. Vous savez, vous recevez des amis chez vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous leur montrez le patrimoine. Voilà. C'est très lié au voyage aussi, à la visite.
Alors en France, on a une politique de protection de ce patrimoine. On a tous déjà entendu parler de monuments classés, monuments inscrits au patrimoine historique. Quand un patrimoine reçoit, alors je veux dire un label de ce genre, je ne sais pas si label est le bon mot, ça veut dire que l'État garantit à minima une protection juridique et pour les monuments les plus, je ne vais pas dire les plus importants, mais les monuments classés, ces monuments reçoivent une aide financière de l'État.
Oui, directe ou indirecte, hein, parce qu'il y a à la fois une aide fiscale pour les propriétaires qui font des travaux, hein, qui peuvent les déduire de leurs impôts dans des conditions particulières, et puis une aide financière directe. C'est celle-là qui a tendance à baisser. Hein, voilà. Quand on essaye d'identifier le budget du patrimoine, il faut ajouter toutes ces ressources. Ajouter que, ce qui est peut-être moins connu aussi, c'est que l'essentiel des monuments historiques, protégés monuments historiques, appartient aux communes. Le plus grand propriétaire, ce sont les communes, à cause des églises. Pour l'essentiel. L'État est un très grand propriétaire aussi de monuments, puis vous avez des propriétaires privés. Individus ou groupements, hein. Vous avez aussi des associations. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que les églises. Hein. Ça, c'est le patrimoine qu'on appelle monumental. Mais vous avez des tas d'autres sortes de patrimoine. Hein, voilà. Vous avez aussi le patrimoine muséal, puisque les objets des collections de musées font partie du patrimoine. Voilà, c'est le deuxième grand continent, si vous voulez, du patrimoine. C'est tout ce qui est collection des musées. Pour l'essentiel, des collections publiques. Il y a quelques musées privés quand même, hein, mais voilà. Et il y a une catégorie qui a été créée par la loi qu'on appelle les musées de France, qui sont des musées dont les collections sont présentées au public et présentent un intérêt particulier, et qui peuvent être publics ou privés. Voilà. Et ça, c'est un label, hein, les musées de France. qui figure dans le code du patrimoine, puisque maintenant il y a un code des différents textes applicables au patrimoine qui sont rassemblés dans un code. Et les musées de France peuvent être privés, mais s'ils ont le label, ils ont des possibilités d'aide, notamment pour la restauration des œuvres, mais aussi des obligations. Avoir une présentation au public, des personnels compétents pour faire ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire expliquer au public ce qu'il voit. C'est très nécessaire, hein, parce que quand vous voyez une œuvre religieuse, déjà savoir de quoi elle parle.
Il y a besoin de contextualisation. Là, vous avez parlé d'un label en particulier, oui. Les musées de France, mais il y en a énormément des labels. Il y a la Maison des Illustres, les Jardins Remarquables, et un des constats que vous faites...
Et l'architecture contemporaine remarquable aussi.
Et l'architecture contemporaine remarquable, il y en a plein, on ne va pas tous
souvent, quand on met
citer.
Le mot remarquable, ça veut dire que ce n'est pas assez bon pour être classé ou inscrit. Hein, voilà.
Ce qui peut poser problème, c'est que depuis quelques décennies, de plus en plus de monuments sont protégés, classés, labellisés, ce qui peut finir par poser problème. Enfin, c'est ce que vous soulignez dans ce tract.
Il y a une espèce de prolifération. Alors là, on parle de patrimoine monumental, patrimoine muséal, mais il faudrait parler aussi de l'archéologie, il faudrait parler des archives publiques. Hein. Dans le patrimoine, vous avez aussi les archives. Et ça, c'est un continent qui grandit de façon exponentielle, hein, et qui d'ailleurs consomme de plus en plus de moyens de l'État aussi. Voilà. C'est le seul budget qui croît continuellement, voilà, et vite.
Ah oui.
Voilà. Parce que là, c'est des obligations, les archives. Donc, on est bien obligé de les collecter, de les analyser, de les mettre dans des containers, de les identifier, de construire des bâtiments. Hein, voilà. Mais il y a plein d'autres types de patrimoine. C'est d'ailleurs en plus un terme maintenant qui s'applique à toutes sortes de choses. Il a tendance à remplacer d'autres termes. Par exemple, avant, on parlait des collections de musées. Maintenant, on parle de patrimoine muséal. Mon objet, moi, c'est le patrimoine au sens, j'allais dire, budgétaire de l'État. C'est un programme budgétaire de la finance qui s'appelle le programme 175, qui est le programme patrimoine. Voilà. Alors, disons que moi, je m'intéresse à ce programme-là et à la façon dont il évolue et dont il fait face aux engagements de l'État lorsqu'il protège un monument. Parce qu'en effet, un monument ou quand tu protèges un objet ou qui crée un musée, ou qui soutient un musée, ou qui labellise un musée, de faire une protection juridique, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, comme le souligne Chastel, à le transmettre intact aux générations futures. Il faut un sacrifice. Donc ça veut dire de l'argent.
De l'argent pour le conserver,
soyons
le
clairs. Voilà.
Et aujourd'hui, on parle d'explosion du patrimoine. C'est une expression qui est utilisée par l'historien Pierre Nora. Ça devient difficilement gérable pour l'État qui se fait le gardien de ce patrimoine, en quelque sorte.
Oui.
Ce que vous observez également, c'est que la durée de vie de notre patrimoine en France, des édifices, a tendance à diminuer. On est passé de 50 ans à peu près de durée de vie moyenne en bonne santé de nos édifices à moins de 40 ans. Comment on explique cette diminution de bonne santé de nos patrimoines ?
On s'aperçoit maintenant, de plus en plus, que 50 ans, c'est trop long. Les choses s'usent plus vite.
Alors, pourquoi elles s'usent plus vite ?
Alors, il faut distinguer l'ancien patrimoine et le nouveau patrimoine. Le nouveau patrimoine, alors là, on parle des monuments, hein, des bâtiments, c'est celui qui date des années récentes, enfin du XXe siècle, quoi, disons. XXe, XXIe siècle. Celui-là, il vieillit mal. Enfin, disons-le franchement, hein, et brutalement, il vieillit mal.
Pourquoi il vieillit mal ?
Il vieillit mal, c'est pas toujours la faute des architectes, c'est quelquefois la faute des architectes, mais pas toujours. C'est la faute des matériaux modernes. Hein. Ces matériaux vieillissent mal, et même, ils développent des pathologies. C'est-à-dire des pathologies propres. Par exemple, le béton se fendille, il tombe en poussière. Voilà. L'amiante, enfin, je n'ai pas besoin de vous parler de l'amiante, vous savez que c'est un poison. Voilà. Les structures métalliques rouillent, enfin, ont également des pathologies propres. Et on a tendance à mettre du verre partout, mais le verre, ça a aussi des pathologies, ça s'altère. Et puis, vous avez aussi des mises en œuvre un peu audacieuses. Les architectes modernes ont voulu rompre avec le passé, donc ils ont rompu avec les vieilles habitudes d'artisanat, où, bon, disons, les maîtres d'œuvre savaient à peu près comment se comportaient les matériaux, ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Et donc, on peut avoir des structures en béton sur la pierre, très mauvaise idée, etc. Enfin, des architectures métalliques très, très longues qui fléchissent, etc. Voilà, c'est le vieillissement accéléré des patrimoines récents.
Donc là, on parle des bâtiments nouveaux. Le patrimoine ancien, il est plus durable ?
Il n'est pas à l'abri parce que lui, il est victime des changements climatiques et des pollutions modernes. Voilà. Et donc là, par exemple, le changement climatique, c'est le cas de l'aile de Fontainebleau, l'aile François Ier de Fontainebleau, qui est sous été et interdite au public parce que les sols argileux sur lesquels elle est construite bougent à cause de l'alternance violente de la sécheresse et des pluies. Mmh. En étant crue en France en ce moment, hein, tout le monde en parle, sauf qu'on parlait de sécheresse aiguë il y a 2 ans. Voilà. Alors, quand vous avez des sols comme ça qui subissent d'abord une sécheresse, ensuite une crue, puis rebelote sécheresse, eh ben...
Ça craque.
Ça craque. Et donc, le vieux patrimoine... Mais il y a d'autres choses, par exemple... Quand j'étais directeur du patrimoine, on avait découvert que les granits bretons, vous savez, c'est le granit breton, c'est inaltérable. Hein, c'est pour ça que les Bretons l'utilisent.
Oui, sauf que...
Sauf que, depuis qu'on fait de l'agriculture intensive en Bretagne, et puis, c'est pas nouveau, mais en Bretagne, il y a souvent près des côtes des embruns.
Eh ben, les embruns,
les engrais chimiques voyagent avec les embruns, se collent sur les granites et ils les rongent. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses qu'on découvre. Bon, vous avez aussi des phénomènes climatiques violents qui arrivent et qui perturbent complètement ces architectures.
Mais ne serait-ce que la semaine dernière, donc là on a parlé d'événements climatiques qui s'accumulent. La semaine dernière, au Louvre, il y a encore eu une inondation. On parle beaucoup du Louvre en ce moment. Ces inondations qui créent des infiltrations et qui ont créé un sinistre, il me semble, dans une des salles du
musée. Il y a eu plusieurs sinistres dus aux infiltrations au Louvre, mais enfin, ce n'est pas seulement la faute de la pluie, c'est aussi la faute d'un mauvais entretien. Les phénomènes climatiques extrêmes, si vous voulez, aggravent les pathologies et surtout, quand il y a un défaut d'entretien, alors là, c'est le drame.
Et même l'Institut, aujourd'hui, on enregistre ce podcast à l'Institut de France, dans son studio. L'Institut a été victime l'année dernière d'un orage de grêle qui a brisé des carreaux de la coupole.
Mais partout, il y a eu plus d'une centaine, voire 200 de vitres abîmé au palais de l'Institut, pas seulement la coupole.
400 carreaux.
C'est énorme. Pas seulement la coupole, tout l'Institut a été frappé, et pas que l'Institut. Vous imaginez le Grand Palais, toutes les verrières, etc. Et ça, les orages de grêle à Paris, c'est quand même pas un phénomène ancien.
Non.
C'est assez nouveau.
Il y a quand même la raison du changement climatique qui est là et qui est de plus en plus présente et qui concerne de plus en plus de...
Oui, puis la prolifération des insectes aussi, enfin avec le réchauffement. Vous avez des insectes qui s'attaquent à des bois, mais pas seulement.
À Chantilly, notamment.
Exactement, mais pas seulement. Même les vitraux de Chartres sont abîmés par des phénomènes de ce type. Et donc voilà, ça c'est les nouvelles pathologies du vieux patrimoine. Et puis vous avez les pathologies du nouveau patrimoine.
Vous citez aussi une autre raison à laquelle on penserait moins de prime abord, c'est on observe une recrudescence d'actes criminels à l'encontre de nos patrimoines, notamment le vol. Alors on a tous en tête le vol, le casse impressionnant, le cambriolage au musée du Louvre en octobre dernier, mais ces vols concernent aussi plein d'autres musées un peu dispersés partout en France.
Oui, le Louvre, le vol des bijoux de la couronne au Louvre a fait une espèce de loupe sur le phénomène des vols, mais il avait été précédé de plusieurs vols violents.
À Paris,
À Limoges, mais ailleurs.
Partout ailleurs.
Il a été suivi d'autres vols. Et en fait, alors les vols dans les musées, c'est un phénomène qui tend à s'internationaliser parce que, vous savez, il y a du crime organisé. Et finalement, c'est plus compliqué d'attaquer une joaillerie que d'attaquer un musée. Ne serait-ce que les joailleries ne sont pas ouvertes au public, ne reçoivent pas des millions de visiteurs. Voilà. Difficile de gérer la sécurité des œuvres dans un musée largement ouvert au public et hyper fréquenté comme l'est le Louvre. C'est toute la problématique. Qu'ont fait les gardiens du Louvre face au casse des vitrines? Eh bien, ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Ils ont mis en sécurité le public, pas du tout les œuvres. Parce que ce qui devient dangereux, c'est la confrontation entre des malfaiteurs violents et le public. Voilà. Et comment gérer c'est très difficile. On ne peut pas fermer les portes, puisqu'il faut que le public puisse évacuer. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, en matière de vol dans les musées, mieux vaut que les voleurs ne rentrent jamais. Voilà. Une fois qu'ils sont dedans, c'est très compliqué. Et donc, comme par ailleurs, il y a énormément de publicité sur les musées, et qu'il est très facile d'aller repérer les lieux, puisque c'est ouvert au public, c'est toute la problématique qui a mis en lumière le vol du Louvre, et qui nécessite des réponses très, très compliquées et certainement coûteuses.
Il y a aussi les incendies d'origine. d'origine criminelle de plus en plus. Alors bon, là, ça concerne moins la zone parisienne. Comment on pourrait expliquer cette augmentation des incendies criminels sur nos patrimoines ?
C'est surtout les églises.
Surtout les églises.
C'est surtout les églises qui sont victimes. Alors, il y a un observatoire du patrimoine religieux qui travaille beaucoup sur le patrimoine culturel, qui travaille beaucoup sur les désordres, enfin, la pathologie des églises, et qui signale l'augmentation à la fois des incendies et des dégradations volontaires, et de la partie criminelle de ces incendies. Parce que vous avez des incendies accidentels, bien sûr. D'ailleurs, il y a aussi des études du ministère de la Culture sur ça. Mais on s'aperçoit que, d'abord, ils ne sont pas très, très nombreux en Corse. Ce n'est pas un phénomène de masse, pas plus que, d'ailleurs, les vols dans les musées. Mais disons que leur coût est énorme. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de vols dans les musées, mais quand c'est les bijoux de la couronne, ça coûte extraordinairement cher. Et c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'incendies dans les églises, mais quand une église brûle, ça fait des dégâts. Regardez Notre-Dame, mais pas seulement. Il y a, bon, on soupçonne toujours un côté terroriste, mais apparemment, non. Enfin, pas forcément. C'est pas forcément terroriste. Vous avez des incendies qui augmentent aussi dans les forêts. Vous avez des incendiaires, vous avez des vandales. Voilà. Et les églises ne sont plus protégées par le respect dû à un sanctuaire. Et elles sont beaucoup moins surveillées qu'auparavant, parce qu'il y a une raréfaction des fidèles. Et ce sont, voilà, c'est les fidèles qui protègent leur église. Et il y en a de moins en moins. Voilà, donc elles ne peuvent pas être cadenassées non plus. Une église, ça doit être ouvert au culte, ouvert aux fidèles. C'est la même problématique que les musées, de ce point de vue. Et donc voilà, qu'est-ce qui peut protéger les églises contre le vandalisme ? L'attention des fidèles et aussi des citoyens, parce que les citoyens peuvent très bien être attachés à leur église, non pas pour des raisons religieuses, mais parce que ça fait partie de leur patrimoine.
Alors, à côté des églises, il y a beaucoup d'autres édifices. Et pour sauver ces édifices, ce patrimoine, on peut de moins en moins compter sur l'État, puisque la part des crédits alloués au patrimoine diminue au fil des décennies. Ça, c'est vraiment une tendance de fond. Alors, spontanément, la première solution à laquelle on pense pour sauver ce patrimoine, c'est le mécénat. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les monuments, les musées y ont recours aujourd'hui ? Au mécénat.
Tous les monuments aimeraient bien avoir recours, mais ils ne peuvent pas. Voilà.
Alors, pourquoi ils ne peuvent pas ? Parce que les monuments, certains édifices attirent plus de mécènes que d'autres.
Les mécènes, alors il y a des mécènes totalement désintéressés, mais enfin, c'est pas totalement, c'est pas le cas général.
Non.
Le cas général, c'est que le mécène cherche un retour sur investissement, disent les spécialistes. Donc, un retour en image. Voilà. Le mécénat est un phénomène qui se développe en France, sous l'impulsion d'ailleurs de gens qui font ce qu'il faut pour ça. Mais il y a toujours une recherche de retour sur image. Or, il faut, pour avoir un bon retour sur image, il faut mécéner un monument que tout le monde connaît. Voilà. Ou un musée. Voilà. Et donc, ce qu'on ne connaît pas, ça ne marche pas très bien. Sachant cela, on avait créé, quand j'étais directeur, la Fondation du patrimoine, qui justement devait s'intéresser ou soutenir ce qu'on appelle le petit patrimoine. Voilà, celui justement qui n'intéresse pas l'État parce qu'il n'est pas protégé, ou les pouvoirs publics, mais qui, voilà, pourrait intéresser le petit peuple. Voilà, bon, le petit patrimoine, petit peuple, voilà. Donc, c'est une fondation qui peut ouvrir des comptes pour collecter de l'argent pour tel monument. Et c'est cette fondation qui travaille avec Stéphane Bern sur le loto du patrimoine, puisque le loto du patrimoine, c'est justement le petit mécénat. Voilà. Vous contribuez en jouant à la loterie.
Et une partie, plus petites structures.
Voilà. Et donc, une partie va aller à du patrimoine qui n'est pas soutenu par les pouvoirs publics. Et ça, c'est Stéphane Bern et la Fondation qui font ça. Donc ça aussi, ça existe. Voilà. La Fondation du patrimoine, après l'incendie de Notre-Dame, a voulu aussi lancer une collecte pour les autres églises en disant, bon, on a donné beaucoup d'argent à Notre-Dame, 850 millions quand même. Bon.
C'est énorme.
Dont 500 donnés par 4 ou 5 mécènes, hein, pas plus.
Ah oui.
Et bien, maintenant, il faut s'occuper du petit patrimoine. On voit bien que le rendement, il est respectable, mais ce n'est pas du tout du même ordre. Voilà.
Que Notre-Dame. Non, c'est certain, c'est différent. Bon, on comprend bien que le mécénat n'est pas la solution miracle. Pour autant, aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer du mécénat. Il est nécessaire.
Mais lui aussi a un coût.
Il a un coût, c'est-à-dire ?
Bien, d'abord, la loi prévoit que les mécènes ont droit à une contrepartie. Une portion de ce qu'ils donnent doit leur être retournée. Alors ça, c'est une convention qui existe. Hein. Le mécène signe une convention avec l'institution qu'il mécène. Et donc, il a droit à un retour en investissement. Et donc, voilà, le droit de faire des réceptions, l'image. Voilà, on calcule tout ça, combien ça coûte en publicité, etc. Et donc, pour l'institution qui a recours aux mécènes, il faut savoir qu'une partie de ce qu'il reçoit va devoir être redonnée sous forme de service ou de facilité. Et ça peut rentrer en contradiction avec la mission du musée.
La mission originelle.
J'ai cité le cas du musée du Louvre, qui ne peut pas augmenter vers le soir sa durée d'ouverture et, par exemple, rester ouvert au public après 18 heures, là où les gens des bureaux sortent et peuvent aller visiter le Louvre, parce que c'est l'horaire qui est réservé aux mécènes pour leur retour.
Pour des événements privés.
Exactement, voilà. Et l'autre inconvénient, c'est que le mécène, il mécène ce qu'il veut. Ce qui lui plaît.
Il oriente un peu les politiques de dépenses, en fait, le mécène.
C'est-à-dire que vous recherchez un mécène, il va falloir lui faire une proposition qui lui plaît, qui lui... Voilà, c'est pas forcément l'urgence qu'il faut traiter, voilà.
Et c'est ce qu'on a aussi beaucoup reproché au Louvre suite au cambriolage,
oui.
C'est d'avoir trop investi dans de nouvelles œuvres...
Et surtout dans de nouvelles muséographies.
Plutôt que sur la rénovation des salles et des infrastructures.
Voilà, alors j'avais un peu résumé ça brutalement à la télévision en disant les caméras de surveillance, un, ça s'inaugure pas, donc ça intéresse pas non plus l'État, et deux, ça plaît évidemment, demander à un mécène de payer une caméra de surveillance ne va pas vraiment marcher. Par contre, si vous refaites complètement une salle d'exposition, là, vous allez pouvoir intéresser un mécène qui va attacher son nom.
Alors, il y a une autre solution à côté du mécénat, majorer le coût d'entrée pour les visiteurs. Ça, c'est une solution qui a déjà été mise en place dans les musées les plus visités par les étrangers, ces visiteurs paient un billet plus cher que les autres. Ça, c'est une mesure relativement récente en France.
Oui, c'est musées et monuments. Hein. Il y a pas
musées
que...
et monuments, oui.
Voilà. Oui, puis c'est un droit de visite plus élevé pour les visiteurs étrangers non communautaires, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de l'Union européenne. Ce que moi, j'appelle un tarif forain. Forain, ça veut dire que vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes forain, vous êtes du dehors. Et donc, ça se pratique partout dans le monde. En France, ça fait débat. Mais si vous allez à New York, vous paierez un tarif, alors que les New-Yorkais, c'est gratuit. Parce que les musées de New York sont des musées de la ville. Et donc, les New-Yorkais payent déjà comme contribuables de la ville. Ils ne repayent pas une deuxième fois. Par contre, tous les gens qui ne sont pas de New York vont payer. Et c'est vrai, c'est partout dans le monde comme ça. Alors, en fait, moi, je suis pour cette mesure. Parce que c'est vrai que les Français, par exemple, payent déjà. Je regrette simplement qu'on ne puisse pas l'appliquer aux Européens en raison des règles de l'Europe sur la libre circulation et le traitement égal entre Français et membres de l'Union européenne, parce qu'eux non plus ne payent pas d'impôts en France. Je parle des visiteurs, bien sûr, des touristes. Je ne parle pas des ressortissants européens qui habitent en France. Ceux-là payent des impôts. Mais les autres, ils n'en payent pas. Voilà. Mais ça, la règle européenne nous l'interdit. Par contre, elle nous autorise à le faire pour les restes des pays. Donc, faisons-le. Ça ramène des sous pour le patrimoine, à condition qu'ils soient bien dépensés pour l'objet. C'est-à-dire pas pour faire des dépenses somptuaires, mais pour entretenir les murs.
On aura compris que les solutions consensuelles, il n'y en a pas tant que ça. Ce qui est dommage, parce que sans ce patrimoine, et vous le dites dans ce tract, la France ne serait pas le premier pays touristique au monde. Le patrimoine est notre or noir, c'est ce que vous dites.
Oui, absolument, c'est notre or noir. D'ailleurs, il faut regarder les chiffres. Les touristes sont majoritaires dans la visite du patrimoine, aussi bien dans les musées que dans les monuments. Les touristes, alors français ou pas français, mais je veux dire celui qui visite en voyage. Et ce que je disais, c'est une pratique très liée au voyage. Et donc, comme le tourisme se développe dans le monde, c'est la première industrie du monde et c'est la première industrie française, le tourisme. On sait très bien que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes tellement visités, c'est notre patrimoine. Et alors, je constate, mais je le disais déjà quand j'étais directeur du patrimoine, donc c'est pas nouveau, que le tourisme, lui, ne contribue pas au patrimoine. L'industrie touristique ne contribue pas. Elle peut contribuer à la dégradation du patrimoine par l'hyperfréquentation de certains sites.
Oui, on n'en a pas parlé. Mais d'où votre préconisation de mettre en place une taxe dans le secteur touristique pour permettre de financer la sauvegarde de ces patrimoines?
Moi, ce que je propose, c'est une nouvelle ressource pour le patrimoine cultuel, les églises communales. Voilà. Parce que là, la charge des communes devient insupportable. Or, elles ne sont pas en bon état, beaucoup sont en danger, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'état sanitaire du patrimoine en général n'est pas bon. Les deux tiers des monuments historiques nécessitent des travaux, donc ne sont pas en bon état. Voilà. Et pour les églises, c'est pareil, voire pire. Donc, les communes ne peuvent plus. Elles craquent devant la charge financières des églises, d'autant plus qu'elles ont des dépenses sociales qui augmentent très vite. Et donc, que faire? Voilà. Alors, Madame Dati a proposé de créer un droit de visite à Notre-Dame. Bon, c'est contraire à la loi de 1905, moi je suis contre idéologiquement, mais c'est pas tellement ça que... Elle a dit 10 millions. 10 millions pour l'ensemble des églises de France. Et, voilà. Et il faut savoir qu'en plus, c'est 10 millions de recettes brutes. Il faudra payer le contrôle, la billetterie, etc. Bon. Donc, en fait, ça ne rapportera pas 10 millions. Et on peut faire ça que dans 3-4 grandes cathédrales. Chartres, voilà, peut-être Reims, et encore Reims, ce n'est pas aussi visité. Hein. Donc, en fait, ce n'est pas la bonne solution. Par contre, on a créé, déjà par la loi, les gens ne s'en sont pas aperçus, il y a une recette qui existe, qui s'appelle la taxe de séjour, qui ne pèse que sur le tourisme. Seuls les touristes la quittent. Mais ça pèse aussi sur les locations par les plateformes type Airbnb. Airbnb. Et c'est une taxe dont le rendement augmente très vite, plus vite encore que le tourisme à cause des locations par les plateformes. Et là, seuls les touristes payent. Or, il existe déjà une taxe additionnelle sur la taxe de séjour qui finance les grandes infrastructures de transport. Parce que le tourisme, ça nécessite aussi de développer les transports urbains. Et par exemple, en Île-de-France, vos transports urbains, c'est-à-dire les bus, les métros et tout ça, sont financés par une taxe de 200% sur la taxe de séjour. Voilà. Donc, pourquoi pas faire la même chose sur le patrimoine, Et donc, si c'est le cas, alors je suis optimiste, je prends le taux de l'Île-de-France, 200%, ça fait 900 millions par an. C'est mieux que 10. Hein, bon. Et concrètement, ça fait combien pour le touriste qui va dans un palace parisien? Ça lui fait 4 euros. Voilà, bon, je pense.
Ça semble assez raisonnable.
C'est supportable.
Merci beaucoup, Marie-Wenne de Saint-Pulgent, pour cet éclairage. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le sujet, je les invite à se procurer ce tract Gallimard. C'est limpide, éclairant et très facile à lire. Il est disponible à la librairie. Vous pouvez les commander aussi en ligne. C'est disponible partout. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Les podcasts de l'Institut de France.